In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Bienvenue dans Wheel of Series, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé et sur vos sites de streaming préférés, le tout sur Wheel of Cinéma. Et aujourd'hui, après avoir entendu pendant des années que la vérité est ailleurs, deux doudingues anglais, Nick Frost et Simon Pegg pour ne pas les nommer, ont quand même décidé de la chercher. On parle de Truth Seekers, disponible sur Prime. Pour en parler, les très paranormaux Charlotte Bloom, bonjour.
Salut.
C'est toi, c'est pas toi? C'est toi ou c'est une autre version de toi? C'est toi ou c'est un fantôme?
Bonsoir,
est-ce que t'es là? Et Geoffrey Traité, bonjour.
Bonjour, je suis là grâce à la 6G.
Ouais, et alors toujours pas échaudé en fait, pas déprimé par cet épisode sur la flamme, tu es revenu.
Oui, effectivement, j'ai eu des raisons de revenir grâce à la flamme, c'est ça qu'il faut dire.
Ouais, d'accord. Et ben, Wheel of Series, c'est parti! Ces chercheurs de vérité font équipe pour enquêter sur des événements paranormaux à travers le Royaume-Uni et raconter ensuite leurs aventures sur les réseaux sociaux. Ce faisant, l'équipe va découvrir l'existence peut-être d'un complot qui pourrait peut-être menacer la race humaine, peut-être, beaucoup de peut-être dans cette phrase tout entière. Extrait.
Can you feel it? Ancient magic resides all around us. Ours is not the only universe. There are realms beyond it. Underneath it, a myriad of parallel dimensions.
Hey, did you steal one of my digestives?
No.
Welcome, Truth Seekers, to the Truth Seekers channel.
Good luck, guys.
We're on the cusp of something here. A gateway between worlds. I'll see you on the other side.
Le père indigné voleur de Digestive Biscuits, c'est Malcolm McDowell, contrepoint comique assez surprenant. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits. Nick Frost, Simon Pegg sont des génies britanniques de la comédie. Acteur pour Frost, acteur et co-scénariste pour Pegg, de la géniale Cornetto trilogie réalisée par Edgar Wright. Trois comédies qui rendaient chacune hommage à un genre différent. Shaun of the Dead pour le film de zombies, Hot Fuzz pour le film policier, Dernier pub avant la fin du monde pour le film de SF. Et Cornetto, je le rappelle, à cause des personnages qui mangeaient régulièrement dans chaque film à un moment une de ses glaces. Un rouge sang dans Shaun of the Dead, bleu gendarme dans Hot Fuzz et vert extraterrestre dans Dernier Pub. Et bien donc le génial duo refait équipe pour faire rire et pour faire peur. Les rois du mélange mettent-ils dans le mille avec cette série? Alors qui s'y colle? Est-ce que ça marche? Peur et rire? Oui? Non?
Moi c'est un grand oui. Moi c'est un grand oui, j'ai adoré. Rire plus que peur, évidemment, même si en fait c'est hyper trompeur parce que ça commence par ce qui fait le plus peur. C'est très bizarre, c'est qu'en fait on commence par les pires scènes et après en vérité c'est plus une sorte de buddies movie parce que finalement ils vont être de plus en plus nombreux dans cette petite bande que des gens en marge, des solitaires qui vont se rattacher les uns aux autres pour des raisons les plus improbables mais qui fonctionnent. Hein. C'est des personnalités qui n'ont rien à faire ensemble. Enfin, ça, c'est un grand classique de la fiction. Mais moi, ça me fait vraiment beaucoup rire. Je trouve que c'est hyper touchant. Je trouve que ces personnages sont beaux parce qu'ils sont fragiles, parce qu'ils sont malheureux. Ils sont pas mal dead inside, hein, finalement. Mmh. Ce qui fait le plus peur, c'est leur mort à l'intérieur. C'est des grands dépressifs. Je crois que je me reconnais beaucoup en eux.
T'as vu, j'ai rien dit. J'ai attendu que tu finisses pour dire tiens, le shit, Sherlock. Ouais. Geoffrey, je te voyais moyennement opiné. Je ne savais pas si le vers la droite, vers la gauche, c'était un bleh ou si c'était un oui.
Oui, j'ai essayé de rester poli.
D'accord.
Parce que je ne connais pas trop Charlotte. Mais pour moi, c'est un grand mouais pour être gentil. Je trouve que ça marche vraiment très moyennement. J'aime bien l'idée de départ, de mêler ces gens qui sont un peu des marginaux. Comme tu le dis, Charlotte, c'est assez classique. Mais c'est plutôt attachant. Il y a plusieurs personnages que je trouve assez amusants, notamment la sœur, qui est complètement inadapté social. Malcolm McDowell est vraiment très drôle, mais je trouve que tout ça reste vraiment en surface, ça reste très facile. Pour une série qui veut autant mettre en scène des gens décalés, sur des sujets décalés, avec des monstres étranges, je trouve que finalement, c'est quand même très, très tiède. J'ai beaucoup de mal à me dire qu'il y a de vraies idées qui ont mené cette entreprise, qu'il y a vraiment des gens qui se sont dit qu'il y avait un imaginaire à exploiter, vraiment des monstres où ils se sont dit qu'il y avait un truc à faire, à montrer, à que ce soit pour le rire ou pour le frisson. De tous les côtés, je me suis dit que c'était quand même très, très facile, très familier en plus. Et le peu d'idées que j'ai trouvé très amusantes du côté des monstres, au final, c'est quand même très peu exploité, notamment la poupée un petit peu hantée, là. Il y a des choses qui m'ont amusé où je me suis dit que ça allait vraiment déboucher sur quelque chose d'un peu excitant. Mais à chaque fois, je me suis dit, ouais, c'est facile. Pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas mieux exploiter cette envie d'avoir un univers un petit peu fou, mais qui est quand même plus proche du rire que du frisson, comme tu le dis? C'est bien joli de caser des références aux Body Snatchers, à Carpenter et tout ça, mais pour moi, c'est vraiment un petit exercice que je trouve beaucoup trop simpliste, que j'ai vraiment du mal à me dire que j'ai envie d'en regarder un autre épisode ou une autre saison.
Alors, ce qui est très étonnant, mais qui en même temps explique sans doute vos divergences, c'est que toi, tu parles des monstres, Geoffrey. Charlotte, c'est vachement attaché au personnage, en fait. Donc, j'imagine tout dépend de ce que t'en attends aussi.
Alors, je suis d'accord sur le fait que j'ai plus axé sur les monstres parce que, justement, les personnages vont laisser tellement...
Ah, à ce point-là.
À côté. Ah ouais, vraiment, moi, le duo des deux héros, j'ai pas du tout marché. Et comme je disais, le seul duo qui m'a vraiment amusé vers la fin, c'est le vieux papy un peu gâteux et cette fille qui est complètement coupée du monde et qui se retrouve une raison d'aller dans le monde. Ce duo, pour le coup, j'aurais bien aimé que ce soit eux le centre de la série parce qu'il est beaucoup moins attendu. Et je trouve que l'alchimie entre les deux acteurs est beaucoup plus amusante et c'est eux que j'ai eu envie de suivre à la fin.
Mais alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ne reforment pas vraiment le duo Peg et Frost puisque Nick Frost, c'est Gus. Il travaille pour une entreprise qui est chargée d'installer Internet chez des utilisateurs. Simon Pegg est son patron, Dave, et Dave lui colle un nouveau collègue qui s'appelle donc, pardon, excusez-moi, mais ça, je peux jamais m'en lasser, Elton John.
Mais tu mets Elton John.
Et donc, ils travaillent ensemble. Et en fait, le dynamique duo, c'est eux, c'est Elton John et Gus.
Mais justement, c'est là, moi, tu vois que je suis pas du tout d'accord avec Geoffrey, mais moi, c'est très bien qu'on soit pas d'accord, mais s'ils avaient voulu faire un truc facile et évident, ce duo, ça aurait été ce duo-là. Peg Frost comme d'habitude et au contraire on nous met un nouveau mec et presque au début quand il arrive tu dis ben non mais moi c'est pas ça que je veux voir comme binôme parce que d'habitude c'est pas comme ça que ça marche et en fait
il est pas dans un bureau
mais ouais non mais moi je trouve que ce nouveau personnage est très beau. Ce que j'aime aussi beaucoup dans la série c'est qu'il nous laisse beaucoup de mystères sur les backstories des personnages qui même si t'es pas forcément attaché à ce que t'es en train de voir maintenant te fait te poser plein de questions. Tu comprends que tout le monde a vécu des traumas, tu comprends que tout le monde a vécu des choses super dures et que c'est par ces fragilités-là qu'ils vont se retrouver. Et personnellement, je trouve qu'en ce moment, c'est un peu ça que j'ai envie de voir. Même si ce n'est pas joyeux, bon là, ils ont rajouté plein de blagues, mais moi, j'ai encore envie de voir qu'on peut se resserrer les uns contre les autres, qu'on peut s'aider à avancer, etc. Et c'est vachement ça que raconte la série. Après, par rapport effectivement au ref, parce que c'est même plus référencé, c'est-à-dire que chaque phrase est une référence. Pour citer notre grand maître à tous, Ronan Crowe, c'est vrai que c'est vraiment un objet de pop culture. C'est presque un escape game de la pop culture. C'est-à-dire qu'entre ce qu'ils disent et ce que tu vois, tu peux faire un bingo un peu de tout ce qui peut exister, mais ça rajoute du fun. En fait, moi, je trouve que c'est une vraie aventure, en fait, cette série. Et en plus, je la trouve vraiment drôle. Les vannes sont drôles. J'ai ri avec du son.
D'accord.
Mais on est d'accord que Malcolm McDowell est très surprenant dans cette série.
C'est Tati Daniel, en fait.
Ouais, mais il est très, très drôle. Série.
Oui, il est génial.
Sa première apparition, c'est un des moments... pour le coup, je trouve que c'est plutôt soigné visuellement et que la mise en scène, il y a quelques moments assez, assez bien pensés. Et je trouve que sa première apparition sur l'espèce de truc mécanique à la Gremlins, avec la mamie dans les Gremlins, dans les escaliers, elle est très
drôle. Un escalier Stana.
voilà, apparemment. Désolé, je ne savais pas. Mais,
car tu es jeune.
Voilà, on va dire ça. La culture du jeune. Que c'est assez amusant, ça joue entre la frontière, entre le rire et le fantastique, justement, avec cette ombre, cette masse un peu floue dans le fond qui monte. Et je suis d'accord que McDowell, il a vraiment un rôle. On l'a déjà vu en Papy Gâteux pas mal de fois, mais rarement avec ce mélange. Lui, il m'a touché vraiment. Je trouve que le mélange entre la légèreté et un peu la douleur masquée marche plutôt bien pour lui. Mais pour revenir à ce que tu disais, Charlotte, effectivement, la facilité extrême, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être Simon Pegg et Nick Frost. Mais encore, moi, j'ai du mal à me dire que la vraie raison qui fait que Simon Pegg est cloîtré dans un bureau, c'est autre chose que juste son agenda surchargé. Tu vois, j'en étais à ce stade-là de réflexion.
Mais si t'es cynique aussi, il y a un moment.
Ah, mais j'ai été engagé pour ça. C'est dans mon contrat. J'ai pas eu le choix. Je le subis, tu sais.
Non, mais alors, ceci étant, c'est vrai que généralement, en tout cas au cinéma, dans leur collaboration sur grand écran, c'est plutôt Simon Pegg, le lead, le personnage principal. Et pour le coup, c'est Nick Frost qui se retrouve au premier rang. Et moi, je ne trouve pas ça inintéressant. Parce qu'en réalité, sous des apparences qui sont celles de Frost, c'est-à-dire cette espèce de grosse carrure qui a l'air d'être... C'est un personnage assez tragique. Et je trouve que ça ne lui va pas si mal.
Ah bah, c'est comme s'il se libérait, en fait. Mm. C'est son ami, hein, mais c'est comme si on lui avait enlevé un gros boulet au pied, quand même.
Ouais.
Alors, on lui en a mis un autre. Mais comme c'est lui le dominant, c'est pas très grave. Et puis, en plus, il est très touchant, Elton, au-delà, effectivement, de son patronyme.
Samson Caillot, il s'appelle, en vrai. Le mec va s'appeler Elton John pour toute sa carrière. C'est quand même... ça va être très compliqué. Non, mais il est intéressant, Frost, même graphiquement parlant. Enfin, jusqu'ici, même si c'est lui le plus massif du binôme au cinéma, moi, je sais que je ne vois que Simon Pegg, parce qu'il a un abattage qui est quand même très particulier. Et que là, de l'avoir lui, je trouve qu'en plus, ça donne un autre rythme. Geoffrey, toi qui as plus de réticence, est-ce que tu es un fan de l'univers Frost Pegg au cinéma, la Cornetto trilogie? Alors, il manque Edgar Wright, on est d'accord, c'est réalisé par Edgar Wright, la série, mais.
Ouais, je suis plutôt très friand. Ouais. Je fais partie de ceux qui trouvent que Le Dernier Peuple, c'est le meilleur de loin, que je trouve le plus beau, parce que justement, il y a l'équilibre entre l'ASF et l'émotion. Je trouve que le film, il est magnifique et il est super beau sur leurs histoires d'amitié et d'espoir déchus et brisés. Et. Bon, je ne joue pas au jeu des comparaisons, je ne m'attendais pas à avoir une claque comme Les Derniers Pubs, même en termes de dynamique de mise en scène, on voit que là c'est beaucoup plus classique, mais encore une fois je trouve que c'est plutôt soigné, et notamment le thème musical moi, m'a vachement marqué, je le trouve très cool, le générique de fin et de début, j'étais vraiment prêt à aimer la série dans le sens où il y a tous les ingrédients que j'aime bien, je ne suis pas spécialement attaché à Nick Frost ou Simon Pegg, donc je n'étais pas non plus à attendre que Simon Pegg ait plus de place, je m'en foutais, je trouve ça très cool qu'il y ait des visages nouveaux, j'aime beaucoup l'idée de mélanger... un peu le côté X-Files de Monster of the Week, mais avec une intrigue, un arc plus global sur la saison. Ça, c'est ce que j'ai plutôt aimé, qui m'a agréablement surpris, c'est que ce ne soit pas la petite enquête de la semaine avec le monstre de la semaine et la bâtisse à l'explorer, qui m'aurait un petit peu emmerdé rapidement. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même très rapidement l'histoire d'un... Alors déjà, il y a une première partie sur le mystère de cette jeune femme, qui est plutôt intriguant, puisque ça traîne sur plusieurs épisodes, pour revenir en boucle à la fin. Et surtout, ce complot bizarre, un peu absurde, autour de la 6G, que je trouve franchement très drôle. Surtout à l'heure actuelle, je trouve que vraiment ça tombe à pic. Et ce que j'aime vachement, c'est que la série, sans spoiler, se termine quand même sur l'idée que c'est la 6G qui nous réunit, qui fait rempart contre les gens qui sont véritablement fous. Donc je trouve que c'est assez amusant de retourner ce truc du complot de la 5G, de Bill Gates et tout ça, pour en faire un truc justement de réunion et de connexion entre les gens. Quoi. C'est un peu, je ne sais plus qui fait le slogan de Connecting People, mais c'est quasiment la série Connecting People. Quoi.
Mais alors du coup, tu retrouves quand même quelques ingrédients du Cornetto. C'est pas complètement...
Oui, dans les thématiques, c'est pas loin, c'est sûr. Hein. En théorie, la série, je trouve qu'il y a plein de trucs intéressants. C'est vraiment en pratique, je me suis dit... Il y a des épisodes où je trouve qu'il y a des bonnes idées qui, comme je disais tout à l'heure, quand on arrive au moment du climax de la résolution, je me dis... Pourquoi c'est pas plus amusant? Pourquoi il s'amuse pas plus avec le côté maison hantée pour mettre un peu à l'épreuve les relations entre les personnages? Il y a beaucoup de moments où je me disais que ça tournait un petit peu en rond, tout en me disant que c'est quand même des épisodes un peu courts. Donc voilà, j'ai l'impression de dire un peu tout n'importe quoi, parce qu'en fait, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un truc un peu tiédasse, où je l'ai regardé sans m'ennuyer, mais sans vraiment trouver ça palpitant à peu près jamais. Hein.
Et Charlotte, toi, tu retrouves ce qui te plaît ou pas, d'ailleurs, je ne t'ai même pas posé la question, dans la trilogie Cornetto ou pas ou...
Complètement. Mais la Britishness, déjà, qui est c'est irrésistible, hein, mais dans la vie, je veux dire.
X-Files en Angleterre, quoi.
C'est un peu ça, c'est un peu ça. Non, oui, moi, j'ai retrouvé cet humour improbable où, il nous sort toujours, il nous déterre des vannes. Enfin, moi, j'entends ce que tu dis, Geoffrey, il y a des choses qu'on voit venir à 10 km, mais je trouve qu'il nous déterre des vannes qui sont impossibles à prévoir. Il nous déterre des personnages qui étaient impossibles à écrire, qui sont des mélanges de plein de personnages qu'on connaît. Voilà, cette jeune fille qui est un peu la Eleven de Stranger Things, avec d'autres problèmes. On va nous parler de la culture réseaux sociaux, mais d'une manière fun et pas du tout violente, même plutôt comme d'un remède. Et je trouve qu'il y a des petits moments de grâce, notamment un clin d'œil mais énorme à Orange Mécanique, incarné par McDowell lui-même. Ouais. Enfin, fallait oser quand même. Mm. On ne dira pas ce qui se passe, mais c'est dans l'épisode 4, il me semble, où il y a vraiment... t'es devant ton écran en train de te dire « j'adore regarder ce que je suis en train de regarder ». Et je pense que c'est important pour une série aujourd'hui, justement quand on ne réinvente pas la poudre, d'être hyper consciente du mélange pop culturel dans lequel t'es et de lui faire des clins d'œil. Et là, c'est énorme, ils sont énormes et ils sont d'autant plus jouissifs, je trouve.
Mais après, sans aller jusqu'à non plus à donner à la série une psyché qu'elle n'a pas, mais c'est aussi sans... j'ai peur de spoiler des trucs, mais bon, tant pis, je mets une semi-alerte spoiler, c'est aussi une série sur le deuil.
Ah bah c'est complètement une série sur le deuil, que ce soit le vrai deuil de j'ai perdu quelqu'un ou le deuil de je me suis perdu moi et j'essaye de me retrouver. Et c'est en ça que je trouve que c'est beau et que ça ressemble un peu à ce qu'on vit en ce moment, parce que c'est aussi beaucoup une série sur les gens qui se referment sur eux-mêmes et qui s'isolent. C'est très dur, en fait, je trouve, de la regarder sans penser à notre époque. C'est le hasard si on la regarde maintenant, cette série, parce qu'apparemment, ça fait 3 ans qu'elle est en projet. Et en fait, elle nous raconte beaucoup et je trouve qu'elle nous rappelle que l'autre, celui qui va nous aider, celui qui va nous sauver, c'est pas forcément celui qu'on croit et qu'il est à portée de main, voire à portée de téléphone, en fait, en ce moment. Je trouve que c'est beaucoup, en fait, une série psychologique. Et à la limite, je verrais le truc à l'envers. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une série de genre. C'est un drama qui utilise le genre pour faire passer la pilule.
Oui, je suis d'accord en théorie avec tout ça.
Moi, merci.
Encore une fois, c'est que la théorie, parce que moi, j'adore tout ça et tout ce que tu dis, ça me donne envie de voir la série, sauf que j'ai déjà
vu. Mais regarde-la.
Senti. Mais en fait, tout, l'idée de, évidemment, les meilleurs films de genre et les meilleures séries, enfin, moi, il y a des épisodes de Doctor Who où j'avais envie de pleurer parce que je ne pensais plus aux monstres, mais juste à leur relation. Et dans les bonnes séries de genre, c'est toujours ce qui se passe. Mais là, pour moi, c'est un petit peu mécanique, quoi. Je comprends l'intention qu'ils ont eue sur le deuil, évidemment. On s'est tellement jeté la figure régulièrement que c'est compliqué de ne pas le voir. Mais moi, j'ai vraiment... Je ne sais pas comment le dire autrement qu'avec une émotion très personnelle et peut-être en ajoutant entre parenthèses que peut-être je suis mort à l'intérieur. Mais moi, ça ne m'a pas vraiment touché, quoi, vraiment.
Moi, qui le suis, je peux te confirmer que non, vu qu'on n'est pas du même avis, c'est que tu ne l'es pas, croisant une spécialiste.
De la mort dedans.
Moi, pour le coup, ce qui m'a le plus touché, mais qui, je pense, réunit à peu près toutes les qualités que toi aussi tu vois, c'est le personnage de Hélène, de Suzy Wokoma, parce qu'elle a à la fois le côté pop culture hyper assumé, mis en avant, puisque c'est une fan de cosplay, et donc elle est super contente de faire les maquillages d'Invasion Los Angeles de Carpenter et de se balader en Daleks, justement, par les Doctor Who. Elle a aussi ce côté vraiment de blessure intime, parce qu'elle est complètement refermée sur elle-même. Elle utilise les réseaux sociaux pour exister, en total décalage avec ce qu'elle est réellement et un peu la douleur qu'elle porte depuis son enfance, qui est liée à son frère et à d'autres traumas dans la famille. Et elle a ce côté un peu aventureux, maladroit, qui arrive dans la dernière partie, que je trouve très jolie, parce qu'en plus, elle a trouvé dans cette figure paternelle une raison de se remettre dans le monde et de prendre des risques. En fait, c'est la seule où je me suis dit, il y a quelque chose d'un petit peu plus, que j'ai trouvé plus sincère, moins attendu, et peut-être parce qu'elle arrive plus tranquillement au fur et à mesure des épisodes par rapport aux autres personnages qui sont quand même vraiment placés, même le personnage d'Astrid, très rapidement on comprend que c'est elle, un des gros mystères de la saison. Donc peut-être que le personnage d'Hélène m'a plus amusé parce qu'il sortait un peu nulle part, et cette espèce de gag dans l'arrière-plan de la sœur un peu hystérique, on ne comprend pas trop pourquoi ni comment, finalement il gagne vachement en humanité, et je crois que c'est elle pour moi qui résume un peu toutes les qualités potentielles, le tout potentiel, on va dire, de la série.
Alors, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à donner votre avis. Utilisez le hashtag Team Charlotte Mortel Intérieur pour si vous êtes d'accord avec Charlotte. Et Team Geoffrey, cynisme de dedans, si vous êtes plutôt de l'avis de Geoffrey. En tout cas, True Seekers, c'est disponible sur Prime. Et je me permets juste de dire, vous avez dit que c'était plus drôle que flippant. Moi, je suis une flippette. Je me suis fait quand même quelques petites jumpscares des familles. Mais je suis une flippette, moi. Hein. Je l'assume. Charlotte en est témoin. Je dirais
Team flippette. Team flippette à l'intérieur.
Ouais, team flippette inside. Alors, normalement, c'est le moment où je lance une virgule que je ne peux pas vous faire entendre. Donc, soit quelqu'un, comme le fait Ronan Crowe régulièrement, chante la virgule, soit on passe directement à la reco, c'est comme vous voulez.
Non, moi je chante pas, moi je suis mort.
Voilà. Alors la reco, qu'est-ce que vous nous recommandez, les amis ?
Alors moi je vais recommander une série qui est plutôt une forme de série documentaire, mais pour les gens qui ne sont pas des flippettes et qui aiment cette idée de chasse aux fantômes. C'est une série qui est sur YouTube qui s'appelle La nuit du chasseur, avec une bande de nanas qui partent visiter des lieux hantés. Alors, moi qui n'ai pas peur, je ne regarde pas, parce que là, pour le coup, c'est la vérité et ça, je ne peux pas. C'est-à-dire que je veux bien regarder tous les films de la Terre, mais par contre, un lieu qui a l'air normal où d'un coup, tu entends des voix, je ne peux pas la regarder. Mais si vous aimez la chasse aux fantômes, la vraie, il y a cette série, La nuit du chasseur, qui qui fait bien peur. Charline, ne regarde pas.
Non,
ne regarde
même
pas.
Même pas en rêve. Geoffrey.
Moi, ce sera classique, mais incontournable. C'est Doctor Who. Je reconseille de revoir pour la 12e fois le revival de 2005. Alors moi, je dirais plutôt les premières saisons. J'aime beaucoup le personnage de Rose, donc saison 1, saison 2, David Tennant. Je trouve qu'il y a un super équilibre. Ça m'a beaucoup fait penser à ça, au côté british, évidemment. En plus, il y a quand même la peinture très discrète en arrière-plan de ce que c'est la vie en Grande-Bretagne avec la famille de Rose, avec son entourage. Et je trouve que, pour le coup, c'est un parfait équilibre entre l'aventure, la fantasy, pas vraiment le frisson, mais plutôt l'hommage à la vieille série B, à la vieille SF kitsch. Et puis surtout, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de rires, il y a beaucoup de... Je trouve qu'il y a un vrai imaginaire. Et il est tout le temps connecté, toujours là pour mettre en valeur et raconter leurs relations, les problématiques qu'ils ont pour avancer, pour se retrouver, pour assumer qui ils sont. Et ce que j'aime aussi, c'est que comme dans Truth Seekers, il y a cet équilibre entre la petite histoire de la semaine, mais des arcs un peu plus majeurs sur les drames qui entourent le personnage de Rose.
Et alors, pour rester du côté britannique, même si c'est pas là-bas que ça se situe, je me permets juste d'ajouter, parce qu'on en a absolument pas parlé dans Wheel of Series, je suis en plein dans The Undoing. Si vous voulez voir Hugh Grant comme vous ne l'avez jamais vu, parce qu'on parle beaucoup de Nicole, qui, comme d'habitude, est virevoltante et formidable, Hugh Grant, quoi.
Je et Donald Sutherland
de... Ben non, mais enfin, voilà. Bon, je n'ai pas vu jusqu'au bout, hein, parce que moi, je suis la diffusion à plus 24. Je suis très... Je suis à fond dedans. Je vous conseille Hugh Grant. Ce sera ça, ma petite reco de la semaine.
Je ne comprends pas ce truc sur Hugh Grant, quand même. C'est un grand mystère de ma vie. Hein.
Pourquoi ? C'est un très très bon comédien. Moi, je trouve que depuis qu'il est débarrassé de ce poids de la rom-com, il n'a jamais été aussi bon.
Ah, faudrait que je le voie dans un truc alors où il est bien.
Vas-y, Undoing.
The Undoing.
Visiblement. Oui, mais avant ça, parce qu'il y a quand même un truc autour de lui.
Paddington. Paddington, déjà, monsieur, excusez-moi, mais.
D'accord.
Love Actually, coup de foudre à Notting Hill. Me lance pas parce que là, on va y passer la soirée.
D'accord. Bah, je citerai qu'il est dans Cloud Atlas. Voilà.
Voilà. Ça, c'est moche. Merci beaucoup, Charlotte Bloom. Merci, Geoffrey Prêté. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur Truth Seekers et sur le reste sur le compte Instagram de We Love Cinéma et We Love Series. Ça revient dans 2 semaines. D'ici là, vous pouvez retrouver l'émission sur welovecinema.fr et sur tous les agrégateurs de podcasts. Salut.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.